Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. On estime que le blanchiment d'argent représente entre 2 et 5% du PIB mondial. C'est une machine de guerre invisible qui finance le crime organisé, déstabilise les États et fausse les règles du jeu économique. Mais comment l'argent sale devient-il propre? Quelles sont les nouvelles techniques des criminels pour blanchir leur argent? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Éric Percheron. Chercheur associé à l'IRIS et expert en sécurité financière, il a passé plus de 30 ans dans le monde de la banque à traquer ces flux financiers opaques. Il publie aux éditions Max Milo « Les blanchisseurs, argent sale et col blanc », un ouvrage qui décortique les mécanismes de cette industrie de l'ombre. Avec lui, nous allons comprendre pourquoi le blanchiment est le cordon ombilical du crime, découvrir que l'immobilier ou le marché de l'art sont les nouveaux terrains de jeu des trafiquants, et voir pourquoi, malgré les régulations, l'argent sale n'a jamais été aussi mobile. Éric Percheron, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dites que le blanchiment est le fils naturel du crime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Alors, en fait, je vois un lien de filiation entre les deux parce que lorsque on s'intéresse au crime, ou a fortiori lorsqu'on est criminel, l'objectif c'est de pouvoir en tirer un profit. À part pour les crimes passionnels, et encore parfois ça peut être aussi pour des raisons financières, mais j'aurais tendance à considérer que sans possibilité de monétiser le résultat du crime, la volonté de générer un acte criminel est réduite. Autrement dit, pour faire court, si vous savez que ça ne va pas vous rapporter, vous n'allez peut-être pas aussi facilement vous jeter dans un système criminel ou dans un acte criminel que si vous savez que de toute façon, il vous sera très facile de blanchir l'argent et donc d'en tirer les fruits. C'est dans ce sens-là que je considère que le blanchiment est vraiment le fils spirituel du crime.
En fait, vous faites le raisonnement, pas de crime sans profit, pas de profit sans blanchiment, et donc logiquement, pas de crime sans blanchiment.
Pas de crime sans blanchiment.
Lutter contre le blanchiment, c'est une manière de lutter contre le crime lui-même.
Voilà, et vous avez tout à fait raison. En fait, le blanchiment, la lutte contre le blanchiment, c'est pas un objectif final en soi, c'est un objectif intermédiaire. Comme on dit en économie, vous avez des objectifs finaux et des objectifs intermédiaires. Là, l'objectif final, c'est de lutter contre la criminalité, différentes formes de criminalité, on y reviendra peut-être, mais fondamentalement, ça n'est jamais qu'un moyen d'arriver à un objectif intermédiaire qui lui-même, on l'espère, aura une répercussion vers l'objectif final.
Alors c'est quoi l'argent sale en fait? Il vient d'où?
Alors l'argent sale, déjà c'est de l'argent. Ça a un pouvoir libératoire. Enfin c'est de l'argent qui vient de quelque chose qui ne peut pas être objectivement revendiqué. Vous travaillez, vous avez un salaire, vous le revendiquez, vous voulez peut-être une augmentation d'ailleurs. On est dans une logique économique tout à fait normale. C'est-à-dire que l'argent que vous gagnez, c'est de l'argent propre, c'est de l'argent classique, c'est de l'argent qui est connu, qui est déclaré, donc il n'y a aucun souci.
J'ai un bulletin de salaire que je peux montrer.
Voilà, vous avez un bulletin de salaire.
Pour justifier pourquoi j'ai de l'argent sur mon compte.
Exactement. Et vous avez de l'argent sur votre compte, justement parce que vous avez ce bulletin de salaire. Parce que si vous n'aviez pas de bulletin de salaire, et si vous arriviez à votre banque avec une valise de billets, croyez bien que vous auriez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir déposer cet argent sur votre compte sans avoir tout un tas de questions de la part de votre banquier, ce qui est logique puisque c'est une obligation qui lui est faite au titre de la lutte anti-blanchiment, justement. Donc l'argent sale, il y a une définition assez claire, elle est un peu juridique, mais elle est quand même assez claire, c'est de l'argent qui provient d'un crime ou d'un délit susceptible d'être puni d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Alors, peine privative de liberté, on pense évidemment à la prison, mais ça peut aussi être un bracelet électronique, par exemple.
Ok. Donc concrètement, c'est quoi? C'est l'argent qui vient des réseaux de drogue?
Ça vient de la drogue. Voilà, voilà. Alors, au fur et à mesure, depuis 1989, à peu de choses près, c'est là qu'il y a eu l'émergence vraiment de la lutte anti-blanchiment. À l'origine, c'était pour lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Donc ça peut être de l'argent qui vient des stupéfiants, ça peut être de l'argent qui vient de la traite d'êtres humains. prostitution, travail des enfants, enfin bon, tout ce genre de saloperies sordides. Ça peut être des trafics d'armes. Et ça s'élargit au fur et à mesure. Ça a englobé, depuis les attentats de New York, les Américains y ont englobé le financement du terrorisme. Donc les Européens ont suivi. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et puis, ça englobe aussi des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, comme la fraude fiscale, puisque en France, la fraude fiscale peut, dans certains cas, être punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an.
Et alors, pourquoi la lutte contre le blanchiment est si difficile ?
Elle est difficile parce que, par principe, le blanchiment, c'est quelque chose qui tend à être caché, qu'on tend à rendre le plus opaque possible. Et l'un des objectifs du blanchiment, c'est justement de cacher qui est le propriétaire réel des fonds qui sont blanchis. En fait, faire de la lutte anti-blanchiment, déjà, vous êtes tout le temps en réaction, puisque vous venez essayer de lutter contre du blanchiment d'argent qui a déjà été dégagé. Donc, on peut supposer que le crime a déjà eu lieu. Donc, vous êtes vraiment dans un schéma dans lequel vous êtes toujours un petit peu en décalage. Et c'est pas facile d'être en décalage, parce que si on réussit... Alors, ce qui est bien, c'est que les schémas sont souvent les mêmes. Donc, quand on s'est fait avoir une fois, en général, on s'arrange pour mettre les barrières qui permettent de ne pas laisser un autre truand utiliser le même système. Mais fondamentalement, on a toujours un train de retard. Le terme n'est pas très beau, mais c'est un petit peu ça. Et pour ça, il y a quelques années, je comparais la lutte anti-blanchiment un peu comme au rôle du médecin qui lutte contre le dopage sur le Tour de France. Il lui faut 1 ou 2 ans avant d'avoir détecté quelles sont les nouvelles drogues utilisées, qui les utilise et quelle est la posologie pour pouvoir mettre un protocole de lutte contre le dopage.
Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est que les criminels, ils sont assez créatifs. Et donc, eux, ils sont toujours en train d'inventer une nouvelle technique pour contourner la loi, voilà. Et donc pour réussir à blanchir leur argent. Et donc, le contrôleur, lui, qui lutte contre le blanchiment, il doit essayer d'anticiper les montages, enfin, de les découvrir, en tout cas.
Alors, il doit les mettre à jour. Ouais. Il doit, dans le meilleur des cas, il doit en imaginer. Et c'est là aussi que ça devient intéressant, parce qu'on est obligé de se mettre un petit peu dans la peau d'un blanchisseur, mais on ne sera jamais aussi bon que les vrais blanchisseurs qui représentent maintenant presque une spécialité à part entière dans le monde du crime. Il y a de plus en plus de réseaux qui sont spécialisés, non pas dans le crime, mais dans le blanchiment des fruits du crime.
Alors on y reviendra ça dans quelques instants dans l'entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les trois grandes étapes du blanchiment ?
Alors, lorsque vous avez de l'argent qui provient d'une activité illicite ou criminelle, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est l'introduire dans le système, en général le système financier, parce que c'est plus facile, c'est celui auquel on pense tout de suite, même si ça n'est pas le plus simple dans la réalité des choses. Mais vous allez injecter l'argent dans l'économie, par petits bouts, en passant par différents pays, en passant par différents canaux, en passant par des hommes ou des femmes de paille, comme on dit. Une fois que cet argent aura été ingéré par le système économique, à ce moment-là, vous allez le faire tourner. L'image que je prends souvent, c'est le jeu de Bonneto. Vous savez, ce système qui pour arnaquer les touristes sur le pont de l'Alma, avec 3 verres, une bille, et on cherche à faire deviner sous quel verre la bille se trouve. En fait, la deuxième phase, qui est une phase de création d'opacité et de floutage en fait du chemin de l'argent, c'est exactement comme ce que j'évoque, comme ce jeu de Bonneto, où vous faites passer les capitaux, l'argent ou un tableau, si vous avez choisi le marché de l'art, d'une main à une autre. Et enfin, étape ultime, puisque le criminel veut pouvoir profiter des fruits, il faut pouvoir retransformer les actifs, que ce soit des actifs financiers, c'est-à-dire de l'argent, des actions, des obligations, ce que vous voulez, ou des œuvres d'art, ou des voitures de luxe, ou des montres de luxe, ou que sais-je, vous devez pouvoir les retransformer en argent sonnant et trébuchant, qui vous permettra d'aller à Dubaï, d'acheter des grosses voitures, d'acheter des sacs à main, et d'acheter des Rolex.
Oui, parce que c'est comme ça l'objectif final pour ces gens-là. Et alors, vous expliquez, c'est intéressant, qu'il y a deux grandes méthodes de blanchiment. Vous expliquez qu'il y a une approche par les stocks et qu'il y a une approche par les flux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et les mécanismes de ces deux approches ?
Alors, la première, c'est l'approche par les flux. C'est celle que j'évoque. C'est je vais multiplier les opérations entre des personnes qui n'ont pas forcément légitimité à travailler entre elles, qui ne sont pas forcément, comme je le disais, dans le même pays. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites des opérations au sein d'un même pays, la réglementation est la même des deux côtés du bateau, si j'ose dire. Si vous êtes dans un système international, vous allez avoir une rupture dans la continuité des réglementations. Et du coup, ça va être plus facile pour un truand, un blanchisseur, de profiter des différences qu'il y a entre deux États, deux pays, deux politiques de lutte anti-blanchiment. Et évidemment, il y aura une tendance naturelle à aller gérer ces flux financiers ou d'œuvres d'art ou de que sais-je, dans des pays qui sont le moins regardants possible en matière de lutte anti-blanchiment, puisque si vous allez directement dans les endroits où c'est le plus strict possible, vous multipliez les chances ou les risques de vous faire coincer. Donc ça, c'est l'approche que je qualifie de par les flux. Et l'autre, l'approche que j'identifie, c'est ce que j'appelle une approche par les stocks, c'est-à-dire que derrière toutes ces opérations, il y a la plupart du temps des sociétés, mais derrière ces sociétés, il y a la plupart du temps soit d'autres sociétés dans les montages très complexes. Vous pouvez avoir des emboîtements de sociétés, ces célèbres holdings dont tout le monde parle et dont tout le monde se gargarise sans trop savoir ce que c'est, parce qu'une holding, c'est jamais qu'une société comme une autre qui est tout à fait légalement constituée de toute façon. Donc il y a ces empilements de sociétés, et derrière, cette approche par les stocks, c'est qui est propriétaire au sens final, c'est-à-dire qui est la personne physique qui est derrière tout ça, derrière tous ces montages.
Le bénéficiaire effectif.
Alors, bénéficiaire effectif, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, qui veut dire, en fait, c'est lui effectivement qui en tire un fruit. Voilà, c'est l'ultimate beneficial owner, c'est-à-dire c'est le bénéficiaire ultime. C'est lui qui, en vieux français, on appellerait ça l'affectio societatis. C'est lui qui a le droit de jouir des fruits, quoi, en fait.
C'est-à-dire que la société, c'est une personne morale. La personne morale, elle ne met pas de montre, elle ne conduit pas la voiture de luxe.
Exactement.
C'est la personne physique qui va utiliser l'argent.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quelles sont les techniques financières qui sont utilisées par les blanchisseurs, et peut-être nous donner un ou deux exemples qui vous viennent. Déjà, les techniques, parce que vous parlez des... Bon, il y a le paiement en espèces, ça, c'est la... Bon,
c'est le
classique.
C'est le béaba, oui.
Voilà, tout le monde peut la faire, hein. Celle-là, je vais faire des travaux chez moi, bon, je paye au black, quelque part, j'ai blanchi de l'argent.
C'est de la fraude sociale, voilà. C'est puni de plus d'un an de prison, donc ça rentre dans le champ du blanchiment.
Bon, ça, a priori, je pense que tout le monde voit cette technique-là. Bon. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus sophistiquées.
Alors, vous pouvez aller vers plus de sophistication. Par exemple, en décidant de ne plus utiliser des billets de banque, parce que le problème des billets de banque, alors on ne va pas noter les numéros, mais quelque part ça peut être retrouvé. Et puis surtout, d'après les autorités de police, en France, et rien qu'en France, 80% des billets de banque sont porteurs de traces de stupéfiants.
90%.
Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de chances que vos billets de banque, lorsque vous faites un achat, soit recouverts d'une dose infinitésimale, mais qui pourrait être détectée. Donc ça laisse des traces. Donc c'est pas facile à passer en douane, par exemple. Je pense à ces merveilleux chiens qui ont un flair extraordinaire. Donc ça, c'est le premier désavantage des billets de banque. Donc vous pouvez décider de ne pas faire circuler les billets de banque et d'utiliser un système qu'on dit de compensation, c'est-à-dire que si je vous dois de l'argent et que vous devez de l'argent à un tiers, je vais peut-être pouvoir m'arranger rapidement avec le tiers pour pouvoir, par un échange de toutes petites dettes, régler à la fois la relation contractuelle de dette que vous avez avec lui et qu'on puisse en même temps régler la relation contractuelle qu'on a entre nous. Ce jeu de compensation, c'est en fait que si à un bout du monde, quelqu'un me doit 100 et que à l'autre bout du monde, il y a une autre personne qui lui doit 100, moi je peux très bien servir d'intermédiaire et ils n'auront pas à travailler entre eux. Je serai moi l'intermédiaire. Et c'est un système qui est très 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 souvent utilisé, notamment dans le sous-continent indien, ce qu'on appelle un nawala. Et l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un nawaladar, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont chargées de concentrer les créances et les dettes pour une certaine communauté en général. Ça fonctionne de manière assez communautaire et affinitaire, un nawala, et ça permet de faire circuler des capitaux. C'est pas de l'argent liquide là en l'occurrence, mais ce sont des capitaux. Ça les fait circuler sans qu'ils circulent, et c'est vraiment la beauté du geste.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on aurait tendance à penser que ces mécanismes de compensation comme ça, ça peut se faire à une échelle individuelle, locale. Oui. Mais vous expliquez qu'en fait, il y a carrément des réseaux internationaux qui se sont organisés pour pratiquer de la compensation à des échelles complètement
tout à fait
délirantes.
Mais aux États-Unis, c'est très, très bien identifié. Chez nos amis anglais, la profession d'awaladar a presque un statut légal, enfin reconnu, puisque les autorités monétaires anglaises émettent très régulièrement des alertes sur les risques des awalas les risques d'extorsion, parce que ça peut déboucher sur des systèmes d'extorsion. Et même au Bangladesh, par exemple, il y a la Banque centrale du Bangladesh a introduit des mesures fiscales qui permettent de favoriser les flux et les transferts classiques au détriment des awalas, parce que les awalas pratiquent des prix qui sont sans commune mesure avec ce que ce devrait être. Et ce problème des prix est tel que les Nations Unies ont un certain nombre d'objectifs, qu'on dit des objectifs de développement durable. Et l'un de ces ODD, il y en a une trentaine, je crois, ou peut-être 17, je ne sais plus. Un de ces objectifs de développement durable, c'est que les prix des transferts d'argent soient le plus bas possible. C'est dire à quel point c'est un point extrêmement important, en particulier dans des pays en développement, dans lesquels les revenus de transfert, donc l'argent qui vient de la diaspora à l'étranger, représente, ça peut aller jusqu'à 30, voire plus, % de la richesse disponible qui est réimportée. Donc c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement structuré. Et d'ailleurs, Europol, comme l'organisme européen de coordination des forces de police en Europe, communique très régulièrement sur ce type de montage.
Alors, vous évoquez aussi dans votre livre le rôle de la crypto-monnaie qui a pris une place assez importante dans le blanchiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, la crypto-monnaie, elle a pris un rôle important et elle a pris un rôle un petit peu difficile à identifier. En fait, il y a un vieux fantasme qui voudrait que on peut blanchir très facilement avec de la crypto-monnaie. Alors que moi, je défends l'idée, et j'ai les moyens de défendre mon point de vue, je défends l'idée que c'est absolument faux, pour la simple raison que les cryptos reposent sur un système de blockchain, et bien que n'étant pas un spécialiste, à mon âge, ce serait vraiment incroyable, je suis dans une situation où je crois comprendre qu'une blockchain, tout le monde a accès à l'information, et surtout l'information est non répudiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer une transaction sur une blockchain. Donc à partir de là, ça veut dire que c'est tout à fait traçable. Il y a des mécanismes qui permettent de rendre ça moins traçable, mais c'est simplement en mélangeant les flux. C'est pas en essayant de les supprimer ou de les faire disparaître électroniquement ou informatiquement. Donc il y a des appareils, enfin il y a des moteurs, on appelle des mixeurs, qui portent bien leur nom, puisque vous mettez différents flux de crypto qui tombent tous au même endroit, le mixeur tourne, le plus célèbre s'appelait Tornado, je dis s'appelait parce que les Américains ont coupé court au truc il y a quelques années maintenant, et derrière, il sort quelque chose qui n'est ni à Pierre, ni à Paul, ni à John, on ne sait pas à qui c'est, mais du coup ça a permis de couper la relation qu'on aurait pu voir entre les deux parties. Et donc les cryptos, à l'origine, les cryptos, c'était une espèce de fantasme libertaire, mais il ne faut pas perdre de vue que ça a été victime de ses premiers succès. Les premiers à utiliser les cryptos, c'était ce qu'on appelle encore le dark web, notamment un très gros site de vente de drogue qui l'utilisait. Je ne vais pas le citer parce que ce n'est pas la peine de faire de la pub pour ce genre de choses, mais c'est vraiment les early adopters, comme on dit, des cryptos, c'était sur le dark web. Donc à partir de là, c'est vrai que ça a laissé cette image. Mais aujourd'hui, la part de transactions qu'on suppose être d'origine criminelle, parce qu'on ne réussit pas à l'identifier, est quand même relativement faible. Et chose amusante, les escrocs, lorsqu'ils vont utiliser des cryptos, ils utilisent la plupart du temps ce qu'on appelle des stable coins. C'est-à-dire, c'est des coins qui sont adossés à une monnaie réelle. Donc en fait, ils dupliquent le schéma de la monnaie réelle, qu'on dit monnaie fiat. Pourquoi ? Parce qu'on y croit. Et donc, du coup, ils dupliquent ce système de monnaie réelle sous forme... Alors, le plus connu d'entre eux, c'est l'USDC. L'USDC, comme son nom l'indique, est un coin qui est directement adossé au dollar. Donc, il n'y a pas la volatilité d'un coin quelconque. Vous avez la stabilité du dollar derrière. Et donc, les escrocs utilisent ça, ce qui prouve bien que les escrocs, au bout du compte, gèrent leurs affaires presque en bon père de famille, si j'ose dire.
Et qu'ils n'ont pas une grande confiance dans la crypto-monnaie, du coup.
Qui peut avoir une grande confiance dans la crypto-monnaie ?
En tout cas, si les escrocs n'ont pas une grande confiance, voilà. Ça... Voilà.
Par moment, ils peuvent servir de, non pas d'exemple, mais en tout cas, ils peuvent avoir raison.
Instrument de mesure.
Avant tout le monde, voilà.
Alors, ça, c'était les techniques financières, mais vous expliquez qu'il y a une définanciarisation aussi, oui, du blanchiment. Pourquoi un blanchisseur, un criminel, il a intérêt à essayer de ne pas passer par le circuit du système financier ?
Alors, dès qu'on parle de blanchiment d'argent, dans l'inconscient, c'est argent qui l'emporte. Et argent, on pense tout de suite banque. Donc du coup, il y a une tendance naturelle à considérer que pour blanchir de l'argent, et peut-être dans l'optique de la technique des flux que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être une réalité. C'est-à-dire que faire passer des capitaux d'un endroit à l'autre, il y a un moyen très simple de le faire. Ça s'appelle des virements bancaires. C'est même le moyen le plus simple au final. Mais c'est totalement tracé, c'est totalement filtré. Donc il y a un moment où considérer qu'on peut blanchir en n'utilisant que le système financier, et en plus sans dimension internationale, c'est vraiment c'est tendre la joue pour se faire battre, quoi. C'est quelque chose qui est, je vais dire, illogique. Alors du coup, les blanchisseurs, qui sont tous sauf des personnes illogiques, trouvent d'autres moyens qui sont moins surveillés, moins réglementés, sur lesquels les autorités sont moins regardantes, puisque pour avoir passé, comme vous l'avez dit en introduction, un certain nombre d'années, je travaille toujours d'ailleurs dans ce secteur-là, dans la lutte anti-blanchiment dans les banques, je peux vous assurer que c'est des modèles qui sont extrêmement solides, extrêmement suivis, que l'implication des banquiers est très forte, à la fois pour des raisons de morale, mais aussi simplement parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés sur le sujet. Mais derrière, vous avez d'autres professions, d'autres vecteurs, puisque là c'est un problème de faut trouver le vecteur, d'autres vecteurs qui sont peut-être pas moins surveillés, mais qui sont moins faciles à surveiller. Par exemple, quel est le prix exact d'un tableau ? Moi, je ne connais pas le prix exact du tableau. Alors évidemment, si je regarde Art Price ou d'autres, je vais trouver une estimation, je vais trouver une valeur de marché, je vais trouver une valeur de dernière transaction, mais la valeur intrinsèque d'un tableau, ça n'existe pas. De la même façon, la valeur intrinsèque de ce studio, par exemple, vous ne pourrez pas la définir, parce que celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous, celui qui est à droite, celui qui est à gauche, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils ne sont pas exposés pareil, ils n'ont pas la même vue, ils sont peut-être plus brillants, moins brillants. Il n'y a pas de prix standardisé non plus pour l'immobilier. Donc,
et pourquoi c'est important ?
C'est important.
Il n'y a pas de prix comme ça.
Parce que comme ça, vous pouvez fixer vous-même votre prix entre acheteur et vendeur. Supposons que
je peux surévaluer ou sous-évaluer le prix.
Exactement.
Et donc, ça me permet de faire des manipulations.
Voilà.
Et de recourir notamment aux mécanismes de compensation, éventuellement.
Voilà. Et en fait, peu importe après l'objet de la transaction, c'est pour ça qu'il y a des choses très différentes. Alors, j'en aborde certains dans le livre, mais vous pouvez avoir ce même type de raisonnement avec les puces électroniques, par exemple, dont le prix varie de manière très erratique en fonction de spécificités qui sont tellement techniques que, franchement, pour les maîtriser, il faut vraiment être un expert du domaine. Et donc, on peut dire que dès lors qu'il n'y a pas de chambre de compensation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire pour assurer le bon déroulé des transactions, et qu'il n'y a pas une cote officielle, vous pouvez blanchir et le support passera directement au second plan. Je cite ce cas de cet ancien ministre qui avait vendu deux petits tableaux hollandais du XVIe siècle à un avocat indonésien. Il les avait vendus de mémoire aux alentours de 500 000 euros, alors qu'ils étaient estimés à 30 000. Donc, alors, sauf à ce que cet avocat malaisien soit un abruti fini. Je ne pense pas que les avocats malaisiens qui contractent sur ce genre de choses soient des abrutis. Donc, en l'occurrence, soit il se faisait avoir, soit il avait un besoin impérieux de donner de l'argent un petit peu plus qu'il n'aurait dû pour des tableaux. Et donc, après, chacun déduit à quoi correspondent ces sommes. Mais...
Alors, du coup, vous expliquez que les blanchisseurs donc, ils utilisent le marché de l'art, ils utilisent le marché de l'immobilier, mais vous dites aussi qu'il y a d'autres domaines comme celui des montres, des chevaux aussi, le domaine équestre, et puis même le domaine des jeux vidéo, à travers Fortnite ou Roblox, où en fait vous expliquez qu'il y a des marketplaces sur ces jeux-là.
Alors, je ne suis pas joueur pour les raisons que je citais plus haut. Je suis passé à côté. Moi, le dernier jeu vidéo auquel j'ai pu jouer, c'était une petite barre et puis une boule qui rebondissait entre les deux. Donc,
ça remonte à loin.
Voilà. Et donc, je comprends que ces jeux qu'on qualifie de massivement multijoueurs, je crois, sont en fait des plateformes sur lesquelles n'importe qui peut se brancher, n'importe qui, y compris des mineurs. Enfin, bon, y a pas de barrière à l'entrée, si on peut dire. Et donc, dans ces jeux-là, je comprends qu'on peut acheter des épées, qu'on peut acheter des vies, qu'on peut acheter une clé, qu'on peut acheter un code.
Acheter des skins, c'est ça le terme. Voilà. C'est des costumes, par exemple. Enfin, voilà, ça permet de changer l'esthétique du personnage. Voilà, c'est des éléments de personnalisation.
Parfait.
On appelle des skins.
Donc, y a un marché primaire du skin ou de la skin, je ne sais pas si c'est sexué.
Un skin.
Il y a un marché du skin qui est dans le jeu. Donc vous introduisez de l'argent qui vient de l'extérieur, du vrai argent, pour acheter des skins. En face de vous, vous avez la plupart des plateformes tirent, je crois, l'essentiel de leurs revenus de cette place de marché primaire. Sinon, c'est vrai que le modèle économique, j'avais du mal jusqu'à découvrir que ça.
C'est le nouveau modèle économique de beaucoup de jeux vidéo, effectivement. Le jeu est gratuit, mais pour rentabiliser le développement du jeu, on vend justement ces éléments d'esthétique, cosmétique. C'est comme ça qu'ils génèrent, donc, que la plateforme, l'équipe de développement va générer des revenus.
D'accord.
Et donc ça, c'est le marché primaire. Effectivement. Ça, c'est le marché. Ce qui est intéressant, c'est le marché secondaire.
Ben oui, parce qu'une fois que vous avez ces skins, vous pouvez avoir envie de... Ben, peut-être qu'il y a des modes dans les jeux vidéo, peut-être que vous avez fini un tableau, fini deux tableaux, N tableaux, s'il y a encore des tableaux, et que vous décidez de revendre vos skins, ou je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des marchés secondaires. Il y a des marchés secondaires qui ne sont pas dédiés à un jeu, mais qui sont dédiés justement au deal de skins de seconde main, si on peut dire. Et là, ça vous permet de transformer des skins en véritable argent. Parce que transformer de l'argent en skin, c'est bien. Mais encore une fois, ma voiture de luxe et mon billet pour Dubaï, je ne vais pas les payer avec des skins. Donc il faut que je puisse revendre les skins. Et si je demande à quelqu'un d'acheter des skins et que je demande à une autre personne de racheter les mêmes skins dans un autre endroit, je ne vais pas avoir de suivi possible, forcément. Et j'aurais quand même réalisé une transaction de passage de l'argent qui rentre, qui est transformé en skin, des skins qui bougent, et de l'argent qui sort, puisque le skin est retransformé en tel cendrillon à minuit, est retransformé. Et du coup, vous avez passé de l'argent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo.
Oui, en fait, là, bon, on parle des jeux vidéo, mais l'idée générale, c'est que ce sont des marchés qui ne sont pas régulés, où les prix sont très volatiles.
Voilà.
Et donc, ça permet, comme ça, aux blanchisseurs de monter des opérations et donc de blanchir leur argent.
Exactement, exactement.
Alors, on va revenir maintenant à la partie de l'entretien où on s'intéresse à l'implication des pays et des gouvernements, on va dire, dans la lutte contre le blanchiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les pays tuyaux et les pays éviers dont vous parlez dans votre livre ?
Alors, c'est avant tout, je ne peux pas revendiquer la paternité des termes ni de la philosophie. C'est une étude sur laquelle je suis tombé un peu par hasard dans un journal qui n'est auquel on ne penserait pas forcément pour ça, qui est un journal de science, mais pas de science économique ou de monétaire. En fait, la théorie des pays éviers et des pays tuyaux consiste à regarder la quantité de flux financiers qui arrivent sur un territoire et à comparer avec ce qu'on serait en droit d'attendre compte tenu de sa puissance économique. Et les auteurs de cette étude ont mis en évidence le fait qu'il y a des pays dans lesquels il y a énormément d'argent qui rentre, mais aussi énormément d'argent qui ressort. J'entends par énormément quelque chose qui n'a rien à voir avec la taille du pays. Donc ceux-là, ils les ont appelés des pays tuyaux. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui font passer des capitaux, donc ils les attirent depuis d'autres pays, mais ils ne restent pas sur place, les capitaux, ils repartent. Ils repartent vers quoi ? Vous l'aurez compris, ils repartent vers ce qu'on appelle des pays éviers, qui, eux, réceptionnent les capitaux. Lorsqu'on fait l'étude sur ces pays-là, on constate énormément de flux rentrants, mais très peu de flux sortants, puisqu'en fait, les avoirs financiers sont stockés, sont détenus au sein des pays éviers en question. Et donc, ça permet d'éclairer la force d'attraction de certains pays, qui sont en général, j'appelle ça des pays pavillons témoins. C'est des pays qui sont propres, il y en a en Europe d'ailleurs. Ce sont des pays qui ont une bonne réputation. Ce sont des pays démocratiques. Ce sont des pays qui ont un droit de la propriété et un droit du système financier qui est tout à fait performant. Qui attire des capitaux pour des raisons de fiscalité en général, mais les capitaux ne restent pas et repartent vers d'autres pays qui, eux, sont beaucoup moins connus, d'une part. Il y en a certains, je vous mettrai au défi de les placer sur une map monde, d'ailleurs. Et puis, ce sont des pays dans lesquels, la plupart du temps, c'est pas tant l'impôt qui est intéressant que le fait qu'on peut cacher le bénéficiaire effectif dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, cette théorie des pays éviers et des pays tuyaux, elle est très satisfaisante. Alors, déjà, intellectuellement, je trouve qu'elle est satisfaisante, mais très satisfaisante même dans sa puissance pour pouvoir identifier quels sont les avantages discriminants d'un pays par rapport aux autres. Et vous constaterez que la plupart des pays éviers n'ont de pays que le nom. C'est pas faire offense aux îles Vierges britanniques ou à Vanuatu ou à Niue ou Nauru ou Saint-Kitts et Nevis. C'est pas leur faire offense que de dire que ce sont quand même pas des puissances mondiales de première grandeur. Et pour autant, ce sont des endroits dans lesquels il y a des concentrations de capitaux qui sont dans des proportions absolument incroyables. Mais ça n'est pas le privilège de ces tout petits endroits. Il y a aussi des tout petits États aux États-Unis, par exemple, qui ont ce même type de caractéristiques. Je pense en particulier au Delaware, qui est, après le New Jersey, je crois, le second plus petit État. Le Delaware attire, pour des raisons fiscales et pour des raisons d'opacité de la propriété. Alors, la fiscalité a évolué ces derniers mois, donc maintenant, c'est plus pour des raisons d'organisation et de capacité à délivrer un service aux grandes entreprises. Mais le Delaware, gardons en tête qu'il y a trois fois plus de sociétés inscrites dans les registres de sociétés au Delaware qu'il n'y a d'habitants au Delaware. Donc c'est vrai que là, il y a un petit souci. Comme aux îles Vierges britanniques, où, de mémoire, je crois qu'il y a 14 000 fois plus de flux financiers entrants que ce qu'on serait en droit d'attendre, vu la puissance économique des îles Vierges britanniques.
Ça, c'est des choses qu'on voit, du coup. Mais donc, les pays tuyaux, les pays éviers, c'est des pays qui participent plus ou moins directement, plus ou moins consciemment au blanchiment d'argent. C'est-à-dire que les pays tuyaux, est-ce qu'ils savent ? Parce qu'un pays évier, bon, lui, a priori, ouais, il organise l'opacité, et c'est bien pour ça que l'argent termine en fin de course son chemin là-bas. Ouais. Mais est-ce que les pays tuyaux, parce que vous avez dit qu'il y avait des pays de l'Union européenne qui étaient des pays tuyaux, ouais, alors je crois qu'il y a les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande qui font partie.
Je garde en tête le Luxembourg surtout, parce que déjà en termes de surface, c'est le plus petit, et vraiment, il dispose d'un vrai savoir-faire en matière financière. Dans le livre, je dis par provocation et pour le jeu de mots, qui sont passés des hauts fourneaux à la haute finance. Vraiment, leur avantage, c'est de disposer d'un système de prestations de services aux entreprises et aux particuliers très très riches qui est vraiment très performant. Donc le Luxembourg est effectivement un bon exemple. Après, savoir si le Luxembourg ignore qu'il est un pays tuyau, Je laisse la question aux autorités luxembourgeoises. Je garde toujours en tête ce qu'avait dit un sénateur il y a quelques années, en 2013, je crois. C'est un sénateur communiste, sénateur Bocquet, qui disait, en parlant de la Suisse, que les banquiers suisses étaient certainement d'excellents banquiers, mais que c'était peut-être pas que pour la qualité de la prestation du banquier suisse que les gens allaient placer leur argent en Suisse. Et ça résume assez bien, je pense.
Il y avait peut-être quelques autres avantages.
Peut-être d'autres considérations qui pouvaient rentrer en ligne de compte.
Alors, puisqu'on parle de l'Europe, mais je voudrais parler plutôt de l'Union européenne en tant que telle, vous donnez deux, trois éléments quand même qui laissent montrer une certaine forme d'hypocrisie dans la lutte contre le blanchiment. J'ai relevé deux éléments en tout cas. Le premier, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question du registre, de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs. Hein, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors quelle est la décision qui a été rendue à ce sujet ?
En fait, il y a, depuis un certain nombre d'années et un certain nombre de réglementations en matière de lutte anti-blanchiment, on a clairement identifié que la transparence de la propriété, c'est quelque chose qui est fondamental. Sinon, on tombe dans les trusts, les fiducies, les anstalt, enfin bon, tous ces montages. Donc du coup, chaque pays est tenu de tenir un registre des bénéficiaires effectifs de ces entreprises. En France, c'est fait de manière tout à fait régulière. Il n'y a strictement aucun souci. C'est tout à fait transparent. C'est tout à fait transparent pour ceux qui ont le droit d'y accéder. Logiquement, si on respectait, si on était dans une situation où on respecte vraiment tous les textes à la lettre, il devrait y avoir une interopérabilité des fichiers tenus par chaque pays de l'Union européenne. Bon, sincèrement, cette interopérabilité, elle est assez discutable. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de m'intéresser au registre de la République tchèque, par exemple. Alors, on pouvait y accéder. Seule chose, c'est que tout était écrit en tchèque. Et je ne sais pas si vous parlez tchèque.
Pas encore.
Alors, en fait, un ami m'a dit un jour que la langue tchèque avait dû être créée pour que personne ne la comprenne à part les tchèques. Ça semble extrêmement difficile à appréhender. Donc du coup, j'avais accès au registre, mais je ne pouvais rien tirer de l'information. Il y a d'autres pays dans lesquels les registres n'étaient peut-être pas complètement remplis comme ils auraient dû l'être. Enfin, quoi qu'il en soit, les registres existaient et ils étaient de libre accès. Le Luxembourg, saisi par un de ses augustes habitants, qui était par ailleurs dirigeant ou mandataire de près de 200 sociétés, y compris des sociétés au Caïman. Enfin,
le Luxembourg. Profil pas suspect du tout.
Non. Le vous et moi, mais voilà. Avec 180 sociétés.
Aux îles Caïmans.
Donc du coup, le Luxembourg a porté le problème du respect de la vie privée à la connaissance de la Cour de justice, qui a statué en décidant qu'effectivement, ça représentait une violation de la vie privée des personnes bénéficiaires effectifs qui étaient inscrits sur ce registre. En droit, ça se défend certainement. Je suis pas juriste, hein. Mais moralement, c'est quand même dommage. Et c'était tellement dommage que, à l'époque, c'était Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie. Et Bruno Le Maire avait pris une position extrêmement courageuse en disant: moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ce fichier doit être d'accès libre. Donc, même s'il y a une décision de la Cour de justice, je vais, le plus longtemps possible, et il a tenu un certain nombre de semaines, je vais continuer à conserver l'accès libre à ce registre. Et ça démontre que là, ce ne sont pas les pays en tant que tels qui font preuve d'esprit retors. C'est juste que parfois, il y a des personnes qui, encore une fois, pour des bases juridiques certainement hyper stables et absolument indiscutables, considèrent que la liberté individuelle l'emporte quelque part sur la sécurité globale du système. Après, bon, moi, j'ai mon opinion, mais comme mon métier, c'est de faire de la lutte anti-blanchiment, c'est pas de préserver le droit de Pierre Poloujac, surtout quand Pierre Poloujac, en l'occurrence, a 180 sociétés aux îles Caïmans. Donc moi, à partir de là, je vois juste à ma porte et je trouvais que cette décision était un petit peu dommage.
Alors, il y a une autre hypocrisie que vous relevez, c'est qu'il y a... En fait, on établit des listes, et notamment l'Union européenne a sa liste des pays dits non coopératifs. Ouais. Sauf que, bah, étrangement, il n'y a aucun pays européen sur cette liste-là. Alors pourtant, vous expliquez qu'il devrait y en avoir quelques-uns.
Bah, logiquement, ce n'est pas faire offense aux Chypriotes que de rappeler que Chypre est une plaque tournante de l'exfiltration de capitaux russes. Avec des méthodes que j'explique dans le bouquin, mais qui sont assez simples. Mais bon, que ce soit Chypre, que ce soit Malte, on peut considérer qu'ils ne sont pas vraiment allés purs en matière de lutte anti-blanchiment. Malte vendait jusqu'à il y a peu de temps des visas à des ressortissants d'autres pays, au simple fait que ça permettait comme ça d'avoir un visa Schengen, donc de pouvoir voyager. Donc, logiquement, on pourrait s'attendre à voir ces pays-là sur des listes européennes, d'autant plus que certains d'entre eux ont fait des passages, parfois courts, mais ont fait des passages sur la liste qui est la mère de toutes les listes, si on peut dire, qu'on appelle la liste GAFI, du nom de l'organisme qui lutte, qui a été créé en 89 en France d'ailleurs, qui lutte à l'échelle mondiale pour essayer d'imposer des canons, plus que des réglementations, mais des critères, des tendances qui peuvent permettre d'uniformiser la lutte anti-blanchiment. Quoi qu'il en soit, ces listes, y en a deux, mais à part la liste noire qui est vraiment très 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 noire, il y a une liste grise dans laquelle on retrouve un certain nombre de pays qui peuvent y entrer, en sortir, bon, de manière assez régulière, y compris des pays européens. Monaco est actuellement sur la liste grise du GAFI. Eh bien, la liste, les Européens aiment bien avoir leur liste. Alors maintenant, il y a une seule liste. Il y a encore 5-6 ans, il y avait une liste par pays. Évidemment, chacun y mettait les pays avec lesquels il ne voulait pas commercer et à contrario, enlever les pays avec lesquels il voulait commercer. Donc là, maintenant, il y a une liste européenne, mais au fin fond d'un règlement, il est écrit qu'il ne peut pas y avoir un pays de l'Union européenne sur la liste des pays non coopératifs de l'Union européenne. Donc vous ne verrez jamais Malte, vous ne verrez jamais Chypre sur cette liste, alors même qu'on les voit apparaître, ou on les a vus apparaître ces dernières années sur la liste GAFI, qui est la référence. En ce sens-là, c'est dommage, parce que l'ancien Premier ministre de Malte, qui s'appelait Muscat, avait, il y a quelques années, remporté le prix de la personne la plus corrompue du monde, qui est décerné tous les ans par un consortium de journalistes qui s'appelle OCCRP. Rien que ce titre-là, ça aurait été logique qu'on regarde Malte avec des yeux un petit peu différents.
C'est dans quel pays qu'il y a une journaliste qui a été assassinée ?
C'est à Malte.
C'est ça, hein, c'est dans ce pays-là. Ouais. Et notamment, il y avait, parce que ce que vous expliquez, c'est que déjà, ces petits pays, donc comme Malte ou comme Chypre, ils ont des politiques un peu agressives sur le plan de la fiscalité ou des montages, de la possibilité de montage, et même d'achat de passeports, c'est-à-dire qu'ils ils vendent la nationalité à des personnes extra-nationales, et ça permet comme ça aux gens d'investir leur argent. Et on achète le passeport, il y a aussi parfois une obligation d'acheter un bien immobilier, si j'ai bien compris, dans le pays, et comme ça on ramène des capitaux dans le pays. Donc ces pays-là ont tout intérêt, en fait, trouvent un intérêt à participer, hein, en quelque sorte, au blanchiment, parce qu'elles en tirent un gain.
Mais elles en tirent un gain. En fait, c'est un jeu universel. Tous les pays veulent attirer des capitaux chez eux. Choose France, par exemple, c'est pas de la vente de visa, évidemment, mais la volonté qu'il y a derrière, c'est d'attirer des capitaux, des investisseurs plutôt, quand même, sur le territoire français. En France, vous pouvez obtenir un visa si vous investissez et si vous créez un certain nombre d'emplois sur le territoire national. Donc, je veux dire, tous les pays ont cette logique et cette volonté d'attirer. Le problème, c'est que certains pays n'ont rien d'autre à vendre que leur nationalité, presque, ou en tout cas un visa qui puisse leur permettre aux acheteurs de voyager partout. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le peu qu'ils ont à vendre. Il y a une île, je ne me souviens plus, je crois que c'est, je vous dirais une bêtise, mais c'est une de ces petites îles, Nauru, Niue ou une autre, qui est en train de disparaître. À cause du dérèglement climatique, le niveau de l'eau monte et l'île va disparaître. On le sait déjà, elle va être noyée. Donc ce pays-là vend sa nationalité, une somme pas énorme, mais l'argent sert à essayer de protéger la population contre la montée des eaux. Donc c'est dire le dilemme dans lequel peuvent se trouver certains pays. Alors autant je peux comprendre que ce pays-là vende ses passeports, parce qu'il n'a rien, de toute façon il n'a rien. Mais par contre, il y a d'autres pays qui ne sont pas menacés directement par la montée des eaux. Je ne pense pas que Nicosie ait déjà les pieds dans l'eau. Là, c'est quand même plus difficile à comprendre. Mais l'Europe, maintenant, a supprimé l'ensemble des programmes de vente de visas. Il restait Malte, effectivement, mais Malte a arrêté il y a quelques mois.
Et donc, il y a une journaliste qui avait été assassinée parce qu'elle avait enquêté sur ce système-là.
Voilà, Daphné Caruso.
En 2017, je crois.
Oui, peut-être, oui. Elle a été assassinée devant les yeux de son fils. Une bombe qui a explosé sous sa voiture. Et il a été prouvé qu'il y avait des accointances, pas forcément directes, mais il y avait des accointances avec le pouvoir politique.
Et alors, vous expliquez qu'il va y avoir une réforme qui va entrer en vigueur en juillet 2017, je crois, ouais. En tout cas dans le courant 2017, avec l'instauration de ce qu'on appelle l'AMLA, l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer synthétiquement ce que va apporter cette nouvelle réglementation ?
Alors, je pense qu'on va comprendre ce qu'elle apportera et ce qu'elle va apporter si on constate des failles qu'il y a pu y avoir dans la surveillance de certains secteurs d'activité dans certains pays. Je vais vous parler de Danske Bank, par exemple. Danske Bank, tout le monde connaît ce scandale. Alors, peut-être pas précisément, je le reprécise d'ailleurs dans le bouquin. Danske, quelque part, ça a mis en évidence que le régulateur estonien, en l'occurrence, je crois, n'avait pas été hyper performant. Donc, à partir de là, l'Union européenne a constaté qu'il y avait peut-être un besoin d'uniformiser, il y avait besoin que les règles soient les mêmes partout, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, c'était des directives. Je ne suis pas juriste, et encore moins juriste européen, mais les directives, je comprends qu'on a un peu de délai pour les mettre en œuvre et qu'on a un petit peu de liberté pour les décliner dans le droit local. Donc ça crée des dissonances, ça crée des points faibles dans le tissu des pays européens, alors que maintenant ça va être un règlement. Un règlement, c'est d'application immédiate, et on ne discute pas, c'est à la virgule près. Donc ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc là, la réforme qui va entrer en œuvre en juillet 2027 va poser un règlement très clair, et va en plus consacrer la création de cette autorité qui aura pour mission de faire coopérer les autorités locales entre elles, locales au sens par pays, et d'assurer la supervision d'un certain nombre d'établissements financiers en particulier, qui représenteront... Alors, on appelle ça parfois des établissements systémiques dans un autre domaine, c'est-à-dire que ce sont des très très gros, qui, s'ils faisaient défaut, pourraient entraîner un effet domino, ou alors ce seront certains qui auront été identifiés comme étant peut-être plus spécialisés, plus pointus, donc plus difficiles à appréhender si ce n'est pas à un niveau européen. Donc cette âme-là, en fait, c'est une remise aux normes, une remise à niveau pour rechercher plus de cohésion et essayer de lutter contre cette rupture. Je vous disais en début d'entretien que c'est bien quand il y a deux pays différents parce qu'on peut profiter des différences de réglementation entre les deux pays. Ben là, avec l'AMLA, au sein de l'Europe en tout cas, il n'y aura plus cette différence. Il n'y aura plus la possibilité en Allemagne de payer des voitures, par exemple, avec des espèces. Il n'y aura plus la possibilité d'aller au-delà de 10 000 euros pour des transactions. En France, c'est 1 000 euros, donc ça ne va pas nous gêner. Mais il y a des pays d'Europe dans lesquels c'était beaucoup plus, et donc ça va faire redevenir tout le monde un petit peu plus raisonnable.
Alors, on a vu que l'importance de la lutte contre le blanchiment, parce que c'est ce qui permet de lutter indirectement ou directement contre la criminalité. Et pour conclure, je voudrais vous demander quel impact a la lutte contre le blanchiment, ou plutôt quels sont les effets concrets du blanchiment sur nos démocraties, sur nos économies. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on lutte contre le blanchiment, on lutte contre le crime, c'est que le blanchiment en tant que tel, il a des impacts, des répercussions sur la démocratie, sur le fonctionnement d'une économie, ce que vous expliquez à la fin de votre livre, et donc je vous laisse vous expliquer. Alors, que les citoyens comprennent en fait l'importance de ce sujet.
Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas blanchisseur. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais au blanchiment d'argent ? En fait, Selon le pays dans lequel on est, il peut y avoir plusieurs raisons. Si on est dans un pays en développement, avec peu de ressources fiscales, par exemple, lutter contre la corruption et la sortie de capitaux des potentats locaux vers la Suisse, vers les Émirats ou ailleurs, c'est important parce que tout l'argent qui part à l'étranger, c'est de l'argent en moins investi dans le pays, donc c'est des ressources fiscales, donc c'est des hôpitaux, c'est des écoles en moins. Et quelque part, dans ce sens-là, le blanchiment des capitaux à l'extérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit la montée d'un système démocratique, puisque vous ne construirez pas une démocratie si vous n'avez pas une classe moyenne, si vous n'avez pas un système de santé à peu près cohérent. Et donc là, on prend du retard, ces pays-là prennent du retard, prennent d'autant plus de retard que l'ironie de l'histoire, si j'ose dire, c'est que plus le pays est pauvre, plus il va être sensible à ce manque à gagner fiscal. Donc ça, c'est le premier point. Il y en a un deuxième que je voudrais mettre en exergue parmi d'autres, mais qui est peut-être celui qu'on peut le plus vivre dans des économies comme les nôtres. C'est que si on ne lutte pas contre le blanchiment, on risque de se trouver dans une situation telle qu'on peut la connaître dans certains quartiers, qu'on dit difficiles, où un gosse de 12 ans préfère se faire 150 euros en restant au pied de l'immeuble à faire le chouf, comme on dit, plutôt que d'aller à l'école jusqu'à 16, 18, 20, 25 ans, pour au bout du compte avoir un boulot qui lui reportera certes plus que les 150 euros qui se fait à 12 ans, mais pas forcément des sommes complètement délirantes telles que celles qu'il voit sur des réseaux sociaux où on scrolle. Vous voyez, j'ai des mots aussi. On scrolle pour regarder des choses qui vous vident le cerveau et qui sont maintenant interdites aux moins de 15 ans. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Parce que derrière, il y a un sentiment d'impunité au sens ceux qui ne blanchissent pas considèrent que ceux qui blanchissent restent impunis. Donc puisqu'ils restent impunis, c'est que le système ne va pas. Puisque le système ne va pas, il faut changer le système. Et on tombe vite dans une espèce de populisme qui peut être un peu orthogonal avec un système démocratique. Donc ça, c'est pour les économies telles que les nôtres, qui sont développées, qui sont structurées, je pense que c'est un des principaux risques, avec en plus des choses toutes bêtes, mais une déformation des prix de l'immobilier, par exemple. Je cite le cas de... Alors c'est malheureusement d'actualité, hein, mais le cas de Courchevel, qu'on surnomme Courchevel au Vau. Quand on regarde le prix de l'immobilier à Courchevel, on se doute bien que, quelque part, on n'est plus dans le raisonnable. Quand on regarde le nombre de... Je ne vais pas parler des hôtels, ça serait du mauvais humour. Mais si on regarde le nombre de restaurants étoilés qu'il y a à Courchevel, on peut s'étonner de ramener à la population de 2300 habitants qu'il y ait autant de cantines de luxe que ça.
Merci à vous pour cet entretien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que QG est un média indépendant, financé par ses abonnés. Je vous invite donc à nous soutenir dès maintenant. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.